Je suis assez friand des phénomènes inexpliqués. Dans la nature, il se passe parfois d'étranges situations qui défient toute logique et même des lois physiques. Dans certaines ruines, on a retrouvé des pierres qui, de toute évidence, semblent avoir été taillées au laser, mais le hic est qu'elles sont vieilles de plusieurs siècles. Je pense que personne n'essaierait de nier qu'il existe des mystères dans la vie. Parmi ceux-ci, et pour ceux qui ont foi dans les Écritures, il y a la Trinité et l'amour de Dieu, et les deux sont liés. La Trinité est une doctrine insondable, mais indéniable. Bien que Dieu se soit révélé comme Dieu unique et éternel, il existe en trois personnes, mais en une seule essence. Celle-ci est éternelle, invisible et subsiste simultanément dans les trois membres de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. L'Écriture indique clairement que ces trois personnes forment ensemble un seul et unique Dieu. Dans certains passages de son évangile, Jean écrit que le Père et le Fils ne font qu'un, que Jésus a dit que le Saint-Esprit allait vivre dans les croyants, qu'il allait lui-même vivre en eux, et que le Père allait lui aussi être en eux. L'apôtre Paul dit que le Père et l'Esprit ne font qu'un, et que le Fils et l'Esprit ne font qu'un. Tous les apôtres soulignent le caractère distinct de chaque personne de la Trinité, et pourtant, toutes trois sont à l'œuvre simultanément. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne sont pas simplement des manifestations du même Dieu, mais des personnes distinctes. Elles se sont d'ailleurs manifestées ensemble, mais différemment l'une de l'autre, lors du baptême de Jésus. Tandis que le Fils entrait dans l'eau, l'Esprit est descendu sur lui, et le Père a parlé depuis le ciel. Jésus priait le Père et lui a demandé de le glorifier. Il a promis qu'il demanderait au Père d'envoyer son Esprit, et a révélé que sa volonté était distincte de celle du Père. Ces incidents que nous rapporte l'Évangile selon Jean n'auraient aucun sens si le Père et le Fils n'étaient pas deux personnes bien distinctes. Ailleurs dans le Nouveau Testament, il est écrit que le Saint-Esprit intercède auprès du Père en faveur des croyants, tout comme le Fils, qui est notre avocat. La Trinité est le summum de la révélation que Dieu nous a donnée sur sa nature, et elle a des implications non seulement sur notre façon de concevoir Dieu, mais aussi sur nos relations avec lui et avec autrui. En effet, c'est la Trinité qui nous apprend que depuis toujours, Dieu est un être relationnel et qui n'a donc pas créé l'homme pour lui tenir compagnie parce qu'il souffrait de la solitude. De toute éternité, antérieure à la création, l'unique réalité qui a toujours été est Dieu. Il est là, à tout jamais, sans commencement et sans fin. Toutefois, Dieu n'a jamais été seul, car il est en trois personnes qui ont toujours été en relation et en communion étroite. Quand Dieu a créé l'homme, il l'a conçu à son image, afin que tous deux puissent entrer en relation l'un avec l'autre. Certains essayent de tout ramener à un même schéma génétique. Ils disent que les animaux ont autant de valeur que les êtres humains et que nous avons 75% de gènes en commun avec la banane. Cependant, il existe un abîme entre l'homme et le reste de la création, car ce dernier possède des caractéristiques qui lui viennent de Dieu, comme la conscience, la pensée rationnelle, le goût de la beauté, la possibilité d'acquérir de la sagesse et un comportement moral. Toutefois, l'aspect le plus significatif de l'image de Dieu en l'homme est sa capacité d'aimer. Cet amour est un reflet, bien pâle, certes, mais un reflet quand même, de l'amour que se portent les trois personnes de la Trinité depuis toujours. Je continue à lire dans le chapitre 4 de la première épître de Jean. Dieu est amour. Voici comment Dieu a démontré qu'il nous aime. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que, par lui, nous ayons la vie. Verset 9. Le mot pour Fils unique signifie « seul enfant né ». Il n'est utilisé que par l'apôtre Jean pour désigner Jésus. Trois fois dans son évangile et une fois dans cette épître. Un autre auteur du Nouveau Testament applique l'expression « fils unique » à Isaac quand il écrit « Par la foi, Abraham a offert Isaac en sacrifice lorsque Dieu l'a mis à l'épreuve. Oui, il était en train d'offrir son fils unique. » Oui, mais quand le vieux patriarche a placé Isaac sur l'autel, il n'était pas son fils unique, mais son second, puisque Ishmaël est né en premier. Et plus tard, après la mort de sa femme Sarah, Abraham a eu plusieurs femmes et de nombreux fils. Cependant, les Écritures appellent Isaac le fils unique d'Abraham. En effet, Isaac était unique dans sa position par rapport à Dieu, parce qu'il était celui qui héritait des promesses que l'Éternel avait faites à son père. Dans l'Ancien Testament, les anges et même les démons sont appelés fils de Dieu. Et dans le Nouveau, les croyants reçoivent eux aussi ce titre. Pour le commun des mortels, il n'est pas facile de trouver l'amour de Dieu dans le monde. La nature telle qu'elle est aujourd'hui n'en révèle pas grand-chose parce qu'on y voit surtout des crocs dégoulinant de sang et des griffes acérées. La loi de la jungle n'a rien de l'amour de Dieu. Pour le trouver, il faut aller sur le mont du Calvaire. L'apôtre Paul écrit « Au moment fixé par Dieu, alors que nous étions encore sans force, le Christ est mort pour des pécheurs. À peine accepterait-on de mourir pour un juste. Peut-être quelqu'un aurait-il le courage de mourir pour le bien. » Mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous alors que nous étions encore des pécheurs. Le Christ est mort pour nous. Je ne sais pas si vous pourriez trouver quelqu'un qui prendrait votre place si vous étiez sur le banc des condamnés à mort. Mais moi, je crois que j'aurais bien du mal. Jésus, par contre, est mort pour des rebelles, des gens ignobles, des pervers, des assassins, des arrogants et des propres justes. L'explication de l'amour de Dieu ne se trouve pas dans ceux qui font l'objet de son amour, mais en lui-même, ce que Jean précise dans le verset suivant où il dit « Et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » Verset 10. L'expression « victime expiatoire » décrit le rachat des péchés, mais il veut aussi dire « propitiation ». Jean a déjà utilisé ce mot au chapitre 2, quand il a dit « Jésus est lui-même victime expiatoire ou une propitiation pour nos péchés ». L'apôtre Paul écrit « C'est Jésus que Dieu a offert comme une victime destinée à expier les péchés pour ceux qui croient en son sacrifice ». Plusieurs siècles avant la croix, le prophète Ésaïe l'avait annoncé. Je le cite. « Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé. C'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. » Et dans le Nouveau Testament, on lit que « Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place, » pour que, dans l'union avec le Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. Le Christ nous a libérés de la malédiction que la loi faisait peser sur nous en prenant la malédiction sur lui à notre place. Il est en effet écrit « Maudit est quiconque est pendu au gibet ». Le Christ lui-même a souffert la mort pour les péchés, une fois pour toutes. Lui, l'innocent, il est mort pour des coupables, afin de vous conduire à Dieu. » Fin de citation. Comme j'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer, le terme propitiation signifie satisfaction de la justice de Dieu. Dans l'Ancien Testament, ce mot désignait le couvercle du coffre sacré qui se trouvait dans le lieu très saint. Il comportait des cornes à ses extrémités qui étaient enduites de sang une fois par an par le grand prêtre, lors de la cérémonie très solennelle appelée Yom Kippour ou Jour des expiations. Suite à cette célébration, Israël était accepté par Dieu comme son peuple pour une autre année. Le couvercle du coffre sacré était le point de rencontre entre un peuple pécheur et l'Éternel, le Dieu trois fois saint. Aujourd'hui, c'est Jésus qui est notre propitiation et il n'y a pas d'autre point de rencontre entre l'humanité coupable et Dieu. Hors Jésus, pas de salut. Comme je le dis parfois, il est notre unique intermédiaire. L'apôtre Paul déclare que Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes parce que c'est lui qui a fait l'expiation des péchés. Jésus a lui-même déclaré « Nul ne vient au Père que par moi ». En d'autres mots, c'est à prendre ou à laisser. De temps en temps, j'aime bien assister à une célébration orthodoxe à la télé parce que je trouve ce spectacle grandiose. La musique, les chants, les icônes, les sculptures, les draperies, les habits sacerdotaux multicolores. Mais notez que j'ai dit « spectacle ». Car Dieu n'est nullement impressionné par ses rites, par l'odeur de l'encens et par les couleurs vives. Ce qu'il regarde est ce qu'il y a dans le cœur des participants. Pourquoi sont-ils là et comment comptent-ils obtenir le pardon de leurs fautes? L'expression « Dieu est amour » est répétée deux fois dans le chapitre 4, mais elle est très mal interprétée car beaucoup de gens comptent sur cet amour pour entrer au paradis. Mais c'est oublier que Dieu est également saint, trois fois. Or, si son amour veut nous sauver, sa sainteté nous condamne. Ce n'est donc pas parce que Dieu nous aime qu'il peut nous faire entrer au ciel par la petite porte de derrière, à l'abri des regards. Sa sainteté et son sens de la justice ne lui permettent pas d'agir ainsi. Voilà pourquoi il fallait que la seconde personne de la Trinité devienne homme et meure sur la croix afin d'expier les fautes des hommes et devenir ainsi leur intermédiaire. On entre au ciel en s'accrochant au Christ ou on n'y entre pas. Tout comme Dieu a manifesté son amour envers ceux qui croient, ces derniers doivent suivre son exemple et s'aimer les uns les autres d'un amour sacrifice semblable à celui du Christ. Pour cette raison, dans le verset suivant, Jean exhorte ses lecteurs disant « Mes chers amis, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. » Verset 11. Ici, l'apôtre répète une exhortation qu'il a déjà faite au chapitre précédent et qui est « Voici comment nous savons ce que c'est que d'aimer. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Nous devons, nous aussi, donner notre vie pour nos frères. Si nous aimons uniquement ceux qui sont aimables, généreux et bienveillants, cet amour n'a guère de valeur. Jésus a dit, « Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, allez-vous prétendre à une récompense pour cela? Les collecteurs d'impôts eux-mêmes n'en font-ils pas autant ?» Voici quel est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme moi-même je vous ai aimé. L'enseignement de Jésus et des apôtres est que je dois aimer mon prochain et surtout mes frères et sœurs dans la foi jusqu'à donner ma vie pour eux. Le dire est facile, mais le faire est ce que Dieu attend de moi. Celui qui ne se soucie pas des autres croyants, qui leur est indifférent ou qui, s'il leur consacre un peu de temps ou de ressources, le fait à contre-cœur, devrait se poser de sérieuses questions sur sa condition spirituelle. Mais c'est là que le bât blesse, car celui qui se conduit ainsi refuse généralement de remettre en question son attitude, prétextant que dans le passé on ne l'a pas bien traité, on lui a fait du mal, et la liste de griefs est longue. Alors maintenant, non seulement il se tient à l'écart des croyants, mais en plus, il a souvent une dent contre eux. En fait, celui qui agit ainsi ne fait que confirmer qu'il n'a jamais vraiment accepté Jésus dans sa vie comme son maître. Il dira peut-être qu'il l'a accepté comme son sauveur, mais c'est peu probable, parce qu'il aurait alors reçu le Saint-Esprit qui aurait transformé son cœur. Or, justement, son cœur ressemble à une coquille vide, dure comme de la pierre. Si je ne manifeste pas de l'amour pour les frères et sœurs dans la foi, et si je ne peux pas pardonner le mal qu'on m'a fait, qu'il soit réel ou imaginaire, j'ai de bonnes raisons de douter que je suis un enfant de Dieu. Même sur la croix, alors qu'il subissait un châtiment particulièrement injuste, Jésus a prié « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Étienne, le premier martyr de l'histoire de l'Église, a prononcé les mêmes paroles. Alors qu'il était brutalement mis à mort à coups de pierre, il s'est mis à genoux et s'écria d'une voix forte « Seigneur, ne leur impute pas ce péché ». J'ai déjà eu l'occasion de dire que j'ai été blessé par plusieurs croyants et que j'ai eu du mal à pardonner et oublier. Je n'ai donc aucune raison de pavoiser et je me sens gêné de faire la morale à quelqu'un en lui disant « il faut que tu, taka, etc. ». Je sais combien il est difficile de pardonner ce qu'on ressent comme une injustice. Pour ma part, je savais que mon attitude était répréhensible devant Dieu et que je devais changer en renonçant à entretenir des pensées coupables à l'égard de ces personnes. Mais comment faire? Je me suis forcé à prier pour chacune d'elles, même quand le cœur n'y était pas. Finalement, et par la grâce de Dieu, je suis arrivé au point où même si le souvenir de ces événements est encore un peu douloureux, je n'ai plus de ressentiment contre les personnes en cause. Je continue le texte de 1 Jean. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Verset 12. Qu'est-ce que ça veut dire? Après que l'Éternel ait créé Adam et Ève, il les a placés dans le jardin d'Éden où ils se voyaient tous les jours. Preuve en est le passage suivant. Au moment de la brise du soir, ils entendirent l'Éternel Dieu parcourant le jardin. Alors l'homme et sa femme se cachèrent de l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui demanda « Où es-tu ? » Celui-ci répondit « Je t'ai entendu dans le jardin et j'ai eu peur, car je suis nu, alors je me suis caché. » Plus tard, Jacob a dit « J'ai vu Dieu face à face et j'ai eu la vie sauve. » Puis il y a eu Moïse au sujet duquel il est dit « L'Éternel s'entretenait avec Moïse directement comme un homme parle avec son ami. » Au sein du peuple d'Israël, il n'a plus jamais paru de prophète comme Moïse, avec qui l'Éternel s'entretenait directement. Pourtant, on lit aussi que Moïse s'est caché le visage car il avait peur de regarder en direction de l'Éternel. Quand Gédéon, qui devint juge en Israël, a reconnu que celui qui était venu lui parler n'était pas un être humain, il a crié « Malheur à moi, Seigneur Éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face !» Après avoir eu une vision de la gloire de Dieu, le prophète Ésaïe s'est écrié « Malheur à moi, je suis perdu, car j'ai les lèvres impures, et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et voici que de mes yeux j'ai vu le roi, le Seigneur des armées célestes !» Même chose pour Ézéchiel, qui après avoir décrit sa vision, dit « C'est ainsi que m'apparut ce qui ressemblait à la gloire de l'Éternel. À cette vue, je tombais le visage contre terre. » Quand l'apôtre Jean était sur l'île de Patmos, il a reçu une vision de la gloire du Christ et il dit « Quand je vis le Christ, je tombai à ses pieds comme mort. Alors il posa sa main droite sur moi en disant « N'aie pas peur, moi je suis le premier et le dernier et le vivant. J'ai été mort et voici je suis vivant pour l'éternité. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. » En réalité, toutes les personnes que j'ai mentionnées n'ont jamais vu Dieu. Elles ont eu une vision souvent fantastique de Dieu ou elles ont vu une représentation humaine de lui ou du Christ glorifié, mais Jean a raison de dire « Dieu, personne ne l'a jamais vu ». Je ne peux voir Dieu dans son essence, dans ce qu'il est vraiment, d'abord parce qu'il est esprit, mais surtout parce que je suis encore et toujours dans le marasme du péché. C'est pour cette raison fondamentale que l'Éternel a dit à Moïse « Tu ne pourras pas voir ma face, car nul homme ne peut me voir et demeurer en vie ».